maître Melchior.
Bonjour.
Vous êtes avocat du cabinet parisien Grand Rue, qu'on consulte assez régulièrement sur French Web, lorsqu'on a besoin d'avoir un avis de spécialiste, d'avocat donc, sur un sujet particulier. Et là, en l'occurrence, cette affaire qui oppose, entre guillemets, LinkedIn, la marque américaine, à Linkéol, la marque française. LinkedIn demandant à la société, à la start-up française Linkéol, de retirer son nom pour similitudes que LinkedIn juge avérées. Vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil là-dessus. Quels sont d'abord les critères principaux qui vont rentrer en ligne de compte, en fait, pour un jugement de ce type-là?
Il y a deux critères principaux qui vont rentrer en ligne de compte, le second se divisant en trois. Premier critère, on va regarder les produits ou services pour lesquels la marque ou les marques en cause sont déposées. Second critère, on va comparer les signes, et ici les signes c'est LinkedIn et Linkéol, et cette comparaison va se diviser en trois parties. On va comparer les signes graphiquement, on va comparer les signes phonétiquement et on va les comparer conceptuellement. Il arrive que certains signes n'aient aucun sens conceptuel et à ce moment-là on oubliera cette partie-là. Mais ce sont les critères qui sont pris en compte. Cela aboutit à quelque chose qui est un peu une matrice, si vous voulez. Si vous avez une identité des signes et une identité des produits et services, l'analyse se termine à ce moment-là. Si pour l'un des deux critères que je viens de citer, il n'y a pas d'identité, mais uniquement similarité, à ce moment-là, il faut examiner s'il existe un risque de confusion qui est créé par la marque qui est seconde, ici Linkéol, par rapport à la marque la plus ancienne, à savoir LinkedIn.
Donc quand l'avocat de LinkedIn envoie un courrier en faisant référence à de fortes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles, on est dans le champ général d'appréciation de ce genre de cas en fait.
Absolument.
Et c'est uniquement sur ces critères que ça va se juger ou est-ce qu'il peut y en avoir d'autres qui rentrent en ligne de compte à un moment précis, notamment, évidemment, au-delà du concept lui-même, la vérité du service qui est fourni, en l'occurrence, en ligne?
Lorsqu'on est dans le cadre soit d'une procédure d'opposition, soit d'une procédure de contrefaçon, on examine les marques telles que déposées. Maintenant, la contrefaçon peut également exister en fonction de l'utilisation qui est faite par celui qui est accusé de contrefaçon. Mais en l'espèce, la position de LinkedIn qui consiste à regarder uniquement les marques telles que déposées est parfaitement soutenable. On aurait pu aussi penser d'ailleurs que LinkedIn se fonde sur un autre critère qui est que elle est une marque dite de renommée ou notoire, ce qui lui ouvrirait d'autres possibilités en plus de celles dont on vient de parler.
On parle des marques donc de dépôt à l'INPI en France, mais il est également demandé de retirer les noms de domaine avec toutes les extensions .fr, .be, .com, .org et autres. Est-ce que ça rentre dans le même champ, une marque d'un côté qui dépend de la juridiction française via l'INPI et puis tous ces noms de domaine qui ont des extensions qui ne sont pas françaises tout le temps?
Deux précisions. Ici, LinkedIn se fonde sur une marque communautaire, donc qui couvre les 27 pays de l'Union. Et s'oppose à une marque qui est une marque française, donc effectivement on se retrouverait devant le juge français. Le juge français peut être compétent et est compétent pour les questions de marque. Il pourrait être compétent pour les questions de nom de domaine, mais il faut savoir aussi que de manière générale, en matière de nom de domaine, il y a eu un développement de mécanismes d'arbitrage par des procédures qu'on appelle UDRP ou qu'on appelle des procédures de règlement des différends. Après ça, selon les cas de figure, il appartient au demandeur de choisir s'il veut utiliser la procédure d'arbitrage ou s'il préfère faire appel aux tribunaux. Dans le cas particulier, LinkedIn, pour des raisons qui peuvent tout à fait s'expliquer pour éviter de multiplier, par exemple, les procédures, indique qu'il pourrait éventuellement saisir la juridiction compétente.
Est-ce que cette demande de LinkedIn vous semble globalement recevable?
Globalement, alors, En tant que juriste, on fait la différence entre ce qu'on appelle la recevabilité et le bien fondé. Elle est parfaitement recevable, c'est-à-dire que LinkedIn a parfaitement le droit de demander. Et en l'espèce, je pense que pour une bonne partie, peut-être pas pour la totalité, elle est fondée.
Un mot plus général, Maître Melchior, est-ce qu'il y a des critères qu'il faut prendre en compte lorsqu'on choisit justement sa marque et qu'on a notamment l'intention d'aller sur le web avec des services qui peuvent être proches et des noms qui peuvent être proches? Est-ce que les créateurs de start-up doivent vraiment faire attention à ce qu'ils font lorsqu'ils choisissent leur nom?
Il est important pour les créateurs de start-up, et c'est quelque chose que j'ai souvent vu, de comprendre quand ils font un business plan qu'ils vont aller soumettre à des investisseurs, que ce soit la famille, les business angels, ou tous les capitaux risqueurs qui existent, que le juridique qu'ils prévoient dans leur business plan, ce n'est pas uniquement les frais de création de la société. Il faut prévoir des frais de recherche de marque ou de nom de domaine, des frais de conseil pour couvrir également tout ce qui concerne le droit de la propriété intellectuelle ou d'immatériel, puisque leur activité tourne autour de ça, et que si leur propriété intellectuelle n'est pas protégée, eh bien tout ce qu'ils vont bâtir risque d'être très rapidement un ensemble vide.
Merci beaucoup, Maître Melchior.
Ben de rien. Merci.